Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Anne Muratori-Philippe.
Bonjour. Pour ce nouveau numéro de Au fil des pages, j'ai choisi de parler d'un ouvrage qui a reçu le prix Tanès, décerné par l'Académie des sciences morales et politiques. Il s'agit de l'histoire de la semaine de Suzette, un hebdomadaire qui a fait les beaux jours des fillettes durant la première moitié du XXe siècle. Analysé sur toutes les coutures par Marianne Couder, spécialiste de la communication à l'IUT de l'Université Paul Sabatier de Toulouse, ce livre est paru aux éditions du CNRS. Plusieurs choix s'offraient à l'auteur. Soit se plonger dans l'étude littéraire des textes publiés, ou analyser l'aspect artistique des illustrations et leurs messages. Elle a préféré se concentrer sur le contenu éducatif de l'hebdomadaire. Quels critères didactiques ont animé ses conceptions et quelle a été leur évolution au fil des ans et des événements? Déjà, trois périodes apparaissent dans l'histoire de la semaine de Suzette. La première, de 1905, année de sa création, à 1927, sous la houlette de sa première rédactrice en chef, Jacqueline Rivière. À cette époque, le journal traverse sans encombre l'épreuve de la guerre de 1914-18. Deuxième période, de 1928 à 1949, le journal est mené tambour battant par sa nouvelle rédactrice en chef, Madeleine Henriette Giraud, dite « Tante Mad », pour ses lectrices. Elle adapte l'outil à l'époque, mélange éducation et divertissement, et fait de la semaine de Suzette le journal des petites filles bien élevées. Il ne faut pas oublier qu'entre 1940 et 1946, Tante Mad a sabordé sa publication, fait exceptionnel dans l'univers de la presse enfantine. Enfin, troisième période, de 1949 à 1959, le journal sans Tante Mad se cherche une nouvelle jeunesse au cœur d'une société en pleine reconstruction. Les petites filles mûries et transformées d'avoir vécu toute leur enfance durant la guerre n'ont plus besoin sans doute d'un journal qui leur est essentiellement destiné. Et en 1960, la semaine de Suzette disparaît définitivement. L'histoire de ce journal commence à la fin du XIXe siècle par la rencontre de deux hommes, Charles Blériot, fils d'instituteur, libraire et éditeur catholique, et le fondateur heureux de la célèbre Veillée des Chaumières, en 1877, qui est destinée aux familles de la France profonde. En 1883, il s'associe avec un jeune homme de 30 ans, Henri Gautier, qui, deux ans plus tard, s'adjoint son neveu, un avocat, Maurice Languereau, et c'est la naissance de la célèbre maison d'édition Gautier-Languereau. Fort du succès de la Veillée des Chaumières, les éditeurs décident de s'attaquer à la presse enfantine. Si les garçons ont leurs journaux, les filles n'en ont pas, du moins dans l'univers de la presse catholique. Avec la semaine de Suzette, ils visent un lectorat chrétien, bourgeois, aux origines et aux fortunes diverses, mais sensible aux principes moraux et religieux, ainsi qu'au sens des convenances. Le journal s'adresse à des petites filles de 7 à 14 ans environ. Autour de divertissements simples, de recommandations éducatives claires, Suzette se forge une ligne de conduite. Elle apprend qu'elle est française, de race blanche, puis elle découvre le monde à travers les colonies et les pays voisins. Même démarche pour l'organisation familiale, affective et quotidienne. À chacun sa place. Père, mère, frère, sœur, aïeuse et domestique. Jusqu'au chien, jusqu'au chat et jusqu'au cheval de la maison, dont le rôle sympathique et prévisible assure les plus jeunes d'une affectueuse sécurité. La partie de détente est aussi présente. Les jeux occupent une place importante, sans oublier le rôle du roman, assise incontournable du rêve. Dans cette recette éditoriale destinée aux petites filles, deux personnages, deux figures immortelles ont assuré son succès. C'est Bécassine, la petite bretonne aimante et énergique, et la fameuse poupée Bleuette, brune, blonde ou rousse, avec son trousseau aussi raffiné que celui des petites filles modèles. Ainsi, Marianne Couder entraîne les lecteurs dans cet univers enchanté des petites Suzettes, où l'on parle de racisme en utilisant le vocabulaire désuet du XIXe siècle. Les bons sauvages de la semaine de Suzette exaltent la grandeur généreuse de la France coloniale. Le journal vit avec son temps. D'ailleurs, les fillettes révèlent l'évolution de la société. Fini les robes à volants, la coupe est plus sobre. Et les coiffures courtes et plates s'harmonisent avec le mobilier aux lignes épurées. Dans ce journal, tout est à sa place, tout est hiérarchisé à l'image de la société. Pour faire passer le message, les éditeurs ont su s'entourer de talents. Pinchon, l'illustrateur de Bécassine, mais aussi Métivet, Morin, Comrie. Malgré le succès de l'hebdomadaire, la rédaction se met souvent en question, cherchant chaque fois à mieux séduire et à fidéliser son lectorat. Dès les premiers numéros, elle s'implique dans une relation suivie avec son jeune public, tout en développant avec lui des rapports étroits et réciproquement confiants. Par exemple, en 1938, Tante Mad, pour la première fois, sollicite de ses petites lectrices un avis sur leur hebdo. Priée d'examiner leur journal préféré, Tante Mad leur demande d'écrire tout ce que vous aimez, ce qui vous plaît, ce que vous désireriez y trouver de nouveau, ce qu'il vous amuserait d'y rencontrer. Vous savez que nous n'avons qu'un désir, vous faire plaisir. À partir de cette année-là, les appels à la participation se multiplient. 9 petites filles tirées au sort reçoivent et classent des manuscrits afin de décerner le prix de la semaine de Suzette. Le choix de ce jeune jury littéraire s'effectue lors d'un goûter offert rue Jacob à Paris aux petites abonnées, initiative qui permet aux enfants de connaître les responsables du journal, mais c'est aussi une formule qui incite à l'abonnement. Tante Mad rend compte de la joyeuse fête, promet des améliorations, délivre des conseils et annonce la remise des prix pour les premiers mois de 1940. Évidemment, comme vous l'imaginez, le cours de l'histoire en a voulu autrement et le journal a cessé de paraître. L'auteur démontre que la rédaction garde toujours le contact avec ses jeunes lecteurs par le biais de ce qu'ils appellent la petite poste. En effet, dès le numéro 2 figure un petit texte expliquant la manière de correspondre avec tel ou tel petit abonné par l'entremise du journal. Succès immédiat. 5 réponses dès le numéro 4, 9 au suivant, plus de 50 dans le numéro 10 et 70 pour le numéro 50. Ces chiffres révèlent l'intérêt croissant que prennent les fillettes à solliciter les services de la petite poste. Que contiennent ces messages? Souvent touchants, ils concernent des recettes à échanger, des petits trucs pratiques, des cartes postales, mais on y lit aussi des recommandations pour le papa, chômeur, qui cherche une place, ou une institutrice qui ferait une plaisante dame de compagnie munie d'excellentes références. À noter que vers 1919, la rédaction ajoute une nouvelle rubrique dédiée à l'analyse graphologique. Quant à Tante Mad, elle répond gaiement aux questions naïves dans sa page de petits conseils. En voici quelques exemples. Comment baptiser une nouvelle poupée? Doit-on couper ses cheveux ou avoir peur d'aller chez le dentiste? Quel soulier assortir à une robe bleu pervenche? Ou que penser des nez retroussés? Ces rubriques fonctionnent bien. Jusqu'à l'automne 1939, les petits conseils, et tout comme la petite poste, sont momentanément suspendus à cette époque afin d'éviter les messages secrets pouvant émaner des agents d'infiltration ennemis. Le corps et l'esprit sont aussi présents dans ce journal. La semaine de Suzette est très sensible aussi bien à la santé du corps comme de l'esprit de ses petites lectrices. Le premier sera maintenu en bon état par des soins appropriés, le deuxième par divers exercices ou jeux. Pourtant, il y a peu d'allusions à la propreté corporelle dans le journal. Le sujet n'est ni amusant, ni d'ailleurs tellement à l'ordre du jour dans une France qui connaît bien peu le cabinet de toilette, encore moins la salle d'eau, et utilise toujours la traditionnelle cuvette agrémentée de son broc à eau. Par ailleurs, toutes allusions aux fonctions naturelles du corps sont soigneusement évitées. Aucune jeune femme ne se trouve jamais enceinte, les bébés apparus comme magiquement ne vomissent pas, ne se salissent jamais, et aucune maman ne nettoie un poupon ou ne change ses couches. Même les animaux se comportent honorablement dans ce domaine délicat. Cependant, l'auteur a relevé quelques évocations plutôt insolentes. Mulot, installé sur le dos de l'oiseau, laisse tomber sur la tête du chat une petite crotte en passant. Ou encore un perroquet mal élevé qui lâche un produit malpropre. Bien sûr, le journal suit scrupuleusement le code des convenances de l'époque qui veut que le corps soit toujours présenté sous son meilleur aspect. De plus, la hiérarchie catholique ne place pas le bien-être physique au premier plan de ses préoccupations, et la maladie, épreuve du corps, peut se révéler salutaire à l'âme. Quant à la sexualité, elle est totalement ignorée. En revanche, le thème de la mort n'est absolument pas écarté des fictions littéraires publiées, et la disparition des parents, en particulier, s'avère parfois nécessaire à l'engrenage qui va précipiter l'enfant au devant de sa destinée. Mais parfois, les auteurs n'y vont pas de main morte. Ainsi, le petit Bénédicte de Maisonneuve a été recueilli avec sa jeune mère veuve par de lointains cousins, et ce petit garçon perd sa maman. Et voici le récit édifiant que l'on peut lire dans le journal. Bientôt, elle ferma ses yeux si tristes et fut rejoindre auprès du bon Dieu son mari tant regretté. Alors Bénédicte eut un royaume sans conteste. Excite la pauvre veuve éplorée que personne ne regrette, pas même son fils. La semaine de Suzette n'ignore donc pas l'existence de la mort, mais celle-ci s'attaque souvent aux très jeunes, aux très âgés, aux malades, aux indigènes, c'est-à-dire aux êtres fragilisés par leur âge, leur sexe ou leur origine. C'est une mort toujours pieuse qui est évoquée, facilitée par la rapidité, le courage et le repentir. Elle apparaît comme une nécessité presque banale qu'il faut côtoyer. Ainsi, l'analyse de la semaine de Suzette par Marie-Anne Couder joue le rôle du miroir. Elle renvoie l'image d'une société enfermée dans le carcan d'une hiérarchie sociale stricte, mais dont les premières fissures annoncent une révolution dans l'éducation des petites filles. C'est cette révolution qui a sonné le glas de la semaine de Suzette. Je rappelle que le titre de l'ouvrage qui a reçu le prix de l'Académie des sciences morales et politiques s'appelle « La semaine de Suzette, histoire de filles » de Marie-Anne Couder et est paru aux éditions du CNRS. Merci.